Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être fidèles à notre rendez-vous de ci, de là, tous les matins, entre 10h et midi. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle. Une femme sur 3 dans le monde est battue. Une femme sur 5 dans le monde est violée. Chaque jour, dans tous les pays et dans toutes les strates de la société aussi. De nouveau, des violences à l'encontre des femmes qui font la une des médias, des meurtres, des coups, des viols, des agressions. Les exemples de cruauté des uns contre le sexe faible se multiplient. Et ce, malgré des siècles de mobilisation, de revendications, de lois proclamées pour faire reconnaître le droit des filles et des femmes. Alors, si les lois sont impuissantes, que faire pour mettre un terme à cette déferlante? Il semble que l'éducation soit l'une des clés majeures pour stopper ce fléau, pour apprendre aux hommes à écouter, à respecter, et pour donner aux femmes les clés de leur destin. Mais quand le mal est installé profondément comme un mode de relation courant, tant pour la victime que pour celui qui est violent, alors comment l'endiguer? Radio Albatros se mobilise dans le cadre de la journée nationale contre les violences faites aux femmes avec une émission spéciale ce matin. Pour en parler avec nous, Éléonore Tarlet. Elle est psychologue et psychothérapeute spécialisée en psychotraumatisme. N'hésitez pas à poser vos questions, vos réactions aussi sur notre page Facebook. Radio Albatros qui se mobilise dans le cadre de la journée nationale contre les violences faites aux femmes avec une émission spéciale ce matin. Pour en parler avec nous, Éléonore Tarlet, elle est psychologue, psychothérapeute spécialisée en psychotraumatisme. Bonjour Éléonore. Éléonore, quand on parle de violence, de quoi parle-t-on exactement? Alors je vois qu'on a un tout petit problème de micro, voilà. Ça y est, c'est fait. Alors on y va. Alors, je vous posais la question de ce que sont les violences et surtout de quoi on parle quand on parle de violences faites aux femmes.
Alors quand on parle de violences faites aux femmes, ça peut être effectivement de plusieurs genres. On a les violences physiques, il y a les femmes battues par exemple. On a les violences psychologiques, donc là ça va être plus des victimes de pervers narcissiques, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, des violences psychologiques, des humiliations, des dénigrements. On a des violences sexuelles, hein, les viols par exemple, l'attouchement. On a des violences conjugales, hein, puisque malheureusement les violences faites aux femmes ne sont pas que hors cadre du couple. Le couple n'est pas toujours protecteur et c'est même souvent le lieu où les femmes subissent des violences. Et je rajouterai aussi des violences faites aux petites filles, donc aux enfants, puisque la majorité des femmes adultes qui sont victimes de violences, notamment de violences sexuelles, malheureusement l'ont souvent été dans l'enfance. Ça favorise en fait le fait qu'on sidère, je vous expliquerai plus tard, et que la femme ne puisse pas réagir.
D'accord, alors on entend aussi beaucoup dire, au-delà de ces violences qui semblent très très installées hein, dans notre société, oh, c'est pas très grave ou c'est une plaisanterie. Quand est-ce qu'on est dans le cadre d'une violence? Une violence, ça commence quand?
Alors la violence, je dirais vraiment simplement avec beaucoup de bon sens, c'est quand la victime, la femme, le vit mal. Quand il y a des souffrances. Alors ça peut être des souffrances observables par l'environnement, une personne qui change d'attitude, qui se renferme, qui est moins joviale. Ça peut être des somatisations, hein. Tout d'un coup on a mal au ventre, on se sent oppressé, on fait des attaques de panique. Ça peut être aussi une collègue qui est souvent en arrêt, ou qui on remarque qu'il y a peut-être des bleus, qui tombe souvent dans les escaliers. Voilà, tout ça doit nous alerter.
D'accord, alors il y a évidemment les blessures physiques, dramatiques, hein, qui peuvent d'ailleurs handicaper lourdement. Et puis, il y a parfois pire, il y a la mort. Et puis, il y a tout ce qu'on ne voit pas, mais qui fait souffrir tout autant. Vous venez d'en parler, on entend beaucoup parler de stress post-traumatique. Qu'est-ce que le stress post-traumatique? Définissez-nous le stress post-traumatique de manière efficace, parce que c'est vrai que c'est un mot qui fait un petit peu peur, qui est un grand mot, mais qui est un mot qui va parler à tout le monde, je pense.
Voilà, alors le stress post-traumatique, c'est classifié dans le DSM-5. Alors je vous dis ça parce qu'en fait, les maladies mentales sont classifiées dans un grand manuel international qui est utilisé par tous les psychologues et les psychiatres du monde pour qu'on s'entende sur les maladies. Et donc, ce qu'on appelle le PTSD, ou le syndrome de stress post-traumatique, est classifié. Alors, on repère à cet état de stress post-traumatique quand il y a un ensemble de symptômes caractéristiques qui se développent. Suite à des événements traumatiques, un ou des événements traumatiques. Alors, on l'a beaucoup vu sur les victimes d'attentats, on en a beaucoup parlé. On peut avoir évidemment chez les victimes de violences, que ce soit psychologique ou physique, hein, Alors, comment ça se passe, les symptômes? On va avoir des réviviscences, c'est-à-dire que souvent la victime revit le trauma, si elle a été violée, elle va avoir des réviviscences, que ce soit visuelles, mais aussi olfactives. Peut-être elle va sentir la transpiration de son abuseur, auditive, elle va entendre des bruits. Voilà, donc ça va être des cauchemars ou éveillés, des flashs qui reviennent. On a des stratégies d'évitement, donc évidemment la victime va avoir tendance à éviter les lieux où ça s'est passé, ou certaines situations qui le lui rappellent. Si par exemple elle a été abusée le soir à la tombée du jour un été, elle va éviter de sortir le soir à la tombée du jour un été parce que pour elle, il y a danger. Il peut aussi y avoir ce qu'on appelle des altérations négatives persistantes dans les cognitions et l'humeur, c'est-à-dire que on va peut-être passer du rire aux larmes, ou par moments on va être complètement angoissé alors qu'a priori il n'y a rien qui l'explique. Et on va avoir une hyper-réactivité, donc ça on peut parler de vigilance, c'est-à-dire que la victime va développer une hyper-vigilance, ce qui semble logique hein, pour le cerveau. C'est-à-dire que lui, le cerveau, il allume ce qu'on appelle nous la réaction d'alarme, puisqu'il sait que ça peut arriver, il sait qu'il y a un danger. Donc en fait, au moindre bruit ou au moindre, je sais pas, par exemple, vous descendez du bus, il y a un homme qui descend en même temps que vous derrière vous, vous allez être en stress maximum.
Oui, d'accord. Voilà. Alors, et pour celles qui sont confrontées quotidiennement à leur agresseur, est-ce que ce sont les mêmes manifestations? Est-ce que les choses s'installent de la même façon psychologiquement, physiologiquement?
Oui, et puis il y a c'est ce qu'on appelle des traumas cumulatifs. Hein. Le souci, c'est que... Alors, il faudra que je vous explique ce qui se passe dans le cerveau chimiquement, parce que ça explique vraiment...
Mais allez-y, justement. C'est intéressant, justement, de comprendre ce qu'il se passe dans notre cerveau.
Le stress post-traumatique, c'est lié à ce que Muriel Salmona appelle là. D'ailleurs, je vous invite à aller voir son site qui s'appelle Mémoire traumatique, qui est très bien fait. Donc, c'est lié à ce qu'elle appelle la mémoire traumatique. Donc, il y a un phénomène chimique dans le cerveau. Il faut bien comprendre que notre cerveau, il est fait pour réagir face à un stress. Donc, c'est ce qu'on appelle les 3F en anglais, hein, soit fight. Quand j'ai un stress, ça permet de combattre et d'être très fort dans me défendre. Soit fly, c'est-à-dire on va éviter, on va courir très vite, on va éviter le danger, ou soit frozen, on est complètement sidéré. Alors si on est face aux deux, les deux premiers F, je dirais soit on combat, soit on fuit, et on n'a pas forcément de PTSD parce qu'on a pu réagir de façon adaptée et on a pu éviter la catastrophe.
Le PTSD, le stress post-traumatique, oui, pour les auditeurs. Non, mais continuez, allez-y.
l'habitude. vraiment le plus important, c'est la sidération. Qu'est-ce qui se passe quand une victime est immobilisée? Alors que ce soit une petite fille parce que son papa lui fait des choses et que c'est complètement sidérant, et je suis sous l'autorité de papa, mais en même temps, je sens bien, il fait des trucs qui vont pas. Donc le cerveau, il bug, je dirais, hein, vulgairement.
Oui.
Si je prends une victime de viol, il y a son agresseur qui met un couteau sous la gorge. On ne peut ni combattre, ni s'enfuir. On est complètement immobilisé. Donc là, on a notre réaction normale qui se passe dans le cerveau, ce qu'on appelle la réaction d'alarme. L'hypophyse, qui est un petit organe dans le cerveau reptilien, va être en alerte maximum et va demander au surrénal de produire du cortisol. Donc cette hormone a l'effet d'activer le cœur, de faire qu'on a les muscles qui se contractent. On a énormément d'énergie tout d'un coup, on a une activation au niveau du souffle. Ça fait qu'on peut effectivement courir très très vite et avoir de l'énergie comme on n'a jamais eu pour courir, ou combattre et avoir énormément de force, on a nos forces qui sont décuplées. Si on est immobilisé, le souci, c'est qu'on risque l'infarctus, parce que tout ce cortisol dans le corps, au niveau du cœur, qui va activer le cœur, au bout d'un moment, on peut faire un arrêt cardiaque. Donc le cerveau va mettre un mécanisme de survie en place, il va mettre en place un coupe-circuit. Et le coupe-circuit, il va être chimique. Tout se passe au niveau chimique dans le cerveau. Donc première chimie, le cortisol, il faut éviter cette hormone de faire du mal au cœur. Donc on a un deuxième cocktail chimique qui va circonscrire l'amygdale, le petit organe qui est au cœur du cerveau. C'est de la kétamine morphine. Donc ça, c'est des drogues dures. Hein, et ça va vraiment isoler l'amygdale. Donc ça a pour effet de couper la tête du corps. Donc en fait, le corps continue d'être abusé, mais la victime ne ressent plus rien.
Alors est-ce que c'est ce qui explique que certaines victimes, et notamment les plus jeunes, les enfants, disent ne pas se souvenir ?
Ah, complètement. C'est ce qui va créer l'amnésie traumatique. Parce que le fait de protéger comme ça, on va dire, le cœur, malheureusement, les conséquences, c'est que ça a isolé complètement cette zone du cerveau et ça va être enkysté, coincé dans une zone du cerveau qui peut ne plus être accessible.
Alors, c'est très très clair.
Il peut y avoir des réminiscences, mais il peut aussi y avoir une amnésie qui dure des années, des dizaines d'années.
D'où ce combat pour le délai de prescription, pour permettre justement aux victimes dans l'enfance d'agression qui ont justement eu cette réaction d'oublier finalement, de refouler ce souvenir, de pouvoir à l'âge adulte et même tard dans l'âge adulte porter plainte.
Voilà, alors c'est pas vraiment du refoulement. Hein. Le refoulement,
d'accord,
c'est un concept psychanalytique. On sait aujourd'hui que la sidération, c'est un phénomène chimique,
neurophysiologique. D'accord, donc une amnésie alors.
Alors je me permets d'insister là-dessus parce que ça culpabilise énormément les victimes. Hein. Quand on leur dit, mais pourquoi vous n'avez pas crié, mais pourquoi vous n'êtes pas
défendu. Oui.
Mais les victimes disaient, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait. Mais à ce moment-là, elles étaient comme des poupées de chiffon. Elles ne pouvaient plus réagir. Le corps n'était plus connecté à la tête. Elles ne pouvaient plus donner d'ordre à leur corps. Les muscles n'étaient plus en connexion avec la tête. Donc on ne pouvait plus ni crier, ni les combattre. Voilà. Donc c'est pas du refoulement. C'est vraiment chimiquement, c'est un mécanisme de survie qui va permettre au cœur de rester en vie, mais qui va isoler le cerveau du corps et du coup la personne ne peut pas réagir. Et très souvent elle s'en veut, il y a énormément de culpabilité, d'ailleurs c'est souvent un frein à la thérapie. Il faut d'abord travailler sur cette culpabilité parce qu'elles sont très souvent et très longtemps dans le « mais j'aurais dû réagir, mais pourquoi j'ai rien fait ?»
Alors justement la thérapie, est-ce qu'on peut soigner un stress post-traumatique et comment on le répare?
Alors les recommandations internationales de santé, hein, il faut savoir qu'on a des scientifiques qui travaillent vraiment sur les évaluations scientifiques et des protocoles validés. La recommandation internationale de santé, de la Haute Autorité de Santé, de l'OMS ou du CNRS, recommande justement l'EMDR, qui veut dire Eye Movement Desensitization Reprocessing, qui est la seule thérapie qui permet d'aller reconnecter l'amygdale et qui en fait va permettre de retravailler l'hippocampe, qui est une structure qui désenquiste l'amygdale et qui retraite le souvenir pour qu'il soit stocké dans la mémoire autobiographique et non plus dans la mémoire traumatique.
On reprend notre souffle avec Beethoven tout de suite et on retrouve Éléonore Tarlet sur Radio Albatros. Radio Albatros qui se mobilise ce matin dans le cadre de la journée contre les violences faites aux femmes avec une émission spéciale ce matin. Pour en parler avec nous, Éléonore Tarlet, elle est psychologue, psychothérapeute spécialisée dans le stress post-traumatique, on peut le dire comme ça, Éléonore ?
Oui,
Éléonore, on observe partout ce qu'on pourrait appeler une forme de rationalisation de la violence avec un certain nombre de clichés qu'il faudrait nécessairement démonter. Tentons de le faire avec vous ce matin. À ces mots, la victime est responsable. Si elle n'est pas partie au premier coup, oh ben c'est qu'elle est responsable. Que répondez-vous?
Alors ça, effectivement, c'est ce qu'on peut penser vu de l'extérieur. Hein, parce que tous les gens vont dire, oui, mais pour moi, ça place, je serais partie, je me serais défendue. Oui, sauf que justement, de l'extérieur, on ne l'a pas vécu. Tant mieux pour ces gens-là. Mais quand on le vit, on a les mécanismes de sidération dont j'ai parlé. Et qui vont sidérer la victime. C'est-à-dire que même psychiquement, donc ça on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais en fait les syndromes de stress post-traumatique, on peut les observer après du harcèlement psychologique. Si le harcèlement dure, donc au début on va avoir de l'impuissance, on va avoir de la tristesse, ensuite on va rentrer en dépression et on peut en arriver au suicide. Hein. Et les victimes portent les marqueurs du PTSD, donc du syndrome de stress post-traumatique, alors que ce n'est, on va dire, que du harcèlement. Alors je dis ça pour les gens qui n'y croient pas, mais on a vraiment les mêmes conséquences psychotraumatiques qu'une victime qui a vécu un viol.
Mais même physiologiquement, alors je pense à ce documentaire qui est passé là il y a quelques jours à la télévision qu'a réalisé Flavie Flamand, où elle fait un IRM, elle passe un IRM et où on réalise, on découvre qu'il y a une trace physique visible à l'œil nu de son agression. Le cerveau imprimerait finalement physiquement une agression.
Oui, tout à fait. Alors, il imprime, donc on a vu dans l'amygdale, alors oui. Je parle de zone cérébrale, oui. Hein, j'espère pas perdre les gens. Il imprime, mais aussi, on a vu un peu les shoots chimiques à répétition à chaque fois qu'on sidère. Le souci, c'est que ça va un peu brûler certaines zones du cerveau, et notamment l'hippocampe. Donc ça, c'est l'organe qui est chargé de désenquister l'amygdale, de retraiter, d'analyser et de réencoder de façon adaptée dans le cerveau cognitif. Donc comme cet organe, il reçoit beaucoup de chimie qu'il ne peut pas traiter, c'est trop, il va au fur et à mesure être atrophié. Et du coup, il va devenir moins efficient. Donc c'est absolument terrible parce qu'une victime qui a vécu de la sidération avec des shoots chimiques, on va dire qu'elle a bugué pour faire simple, Ça a brûlé, ça a endommagé ces structures cérébrales. On a aussi des morts neuronales, il y a certains neurones qui meurent. Hein. Et donc, non seulement elle a été victime de trauma, mais en plus, elle a un cerveau qui est moins efficient que les autres pour retraiter ce trauma. Donc, c'est un peu le cercle vicieux.
Et le fait justement que ce soit à l'œil nu, comme ça, et je dirais médicalement visible, ça donne l'espoir que justement on puisse exploiter cette
oui.
image pour.
Tout à fait. Alors, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour l'avenir parce qu'on va dire, depuis une dizaine d'années, au niveau de la neurophysiologie, ça avance très très vite au niveau du cerveau, on a de plus en plus de connaissances. Donc là, il y a des études actuellement qui sont en train d'évaluer. Alors, il y a deux choses. Hein. Il y a effectivement les zones cérébrales en jeu. On peut faire une photo d'un cerveau sain et d'un cerveau qui a été victime de violence. Et on voit effectivement physiologiquement une différence. Mais il y a aussi l'épigénétique. Alors l'épigénétique, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple une personne, on va prendre, je ne sais pas, ma grand-mère qui a subi un viol. Ben, génétiquement, il y a eu des marqueurs. C'est-à-dire que c'est comme si ça n'a pas modifié toute la génétique, évidemment. Mais on a, sur certains gènes, et ça on peut le voir vraiment avec une prise de sang en faisant une étude génétique, on peut le voir, le marqueur du stress, du PTSD. Donc cette grand-mère, ben, elle l'a transmis génétiquement à ma mère, et ma mère me l'a transmis. Et ce qu'on voit, c'est un exemple bien sûr, ce qu'on voit c'est que la petite fille va avoir un marqueur épigénétique du stress encore plus important que la grand-mère.
D'accord, donc finalement on hériterait.
Tout à fait. On hérite de l'histoire de nos grands-parents.
D'accord.
Alors, je vous dis ça, je veux aussi comme rajouter une petite parenthèse positive, c'est-à-dire que tout est plastique dans le corps et dans le cerveau. Alors, heureusement, ce qui se modifie dans le mauvais sens peut aussi se modifier dans le bon sens. Et on peut tout à fait améliorer, que ce soit son corps, son hygiène de vie ou ses traumas. On peut retraiter tout ça.
Progressons dans ces clichés. À ces mots, il y a une forme de fatalité dans la violence. Quand on a été élevé dans la violence, eh bien, on reproduit la violence. Qu'est-ce que vous répondez?
Alors là, je vais vous parler des conduites dissociantes. Donc, je reviens toujours un peu sur mes choses chimiques qui font dissocier le cerveau. En fait, faire de la violence, faire subir de la violence à l'autre, ça permet de se dissocier au niveau du cerveau. Qu'est-ce qui se passe quand on dissocie? On a un shoot chimique qui apaise. C'est comme si vous faisiez une dose de drogue, hein, vous faites une injection.
Donc je frappe l'autre, ça me fait du bien finalement, et
voilà,
puis on passe à autre chose après.
C'est ça, le cerveau n'est pas fait pour gérer de la violence.
D'accord.
Les études montrent, et Mathieu Ricard l'a bien démontré, qu'en fait l'enfant, le petit être humain, il est foncièrement altruiste et foncièrement généreux. Ça, ce sont les neurones miroirs aussi qui expliquent ça. On est constitué pour ressentir ce que l'autre ressent, et c'est ce qui nous permet d'être dans l'entraide et de vivre en société. Donc tout ce qui va être violence, le cerveau, il disjoncte qu'il n'est pas fait pour gérer ça. Alors, qu'est-ce qui se passe quand moi-même j'ai subi de la violence? Ben, je vais avoir ces fameux flashs, réviviscences, ces angoisses, ces attaques de panique. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'apaiser? Ben, soit je prends de l'alcool, soit je prends de la drogue, ou soit j'ai des conduites dissociantes. Alors, faire subir de la violence à l'autre, ben, ça fait dissocier son cerveau et ça apaise.
Alors, comment est-ce qu'on soigne ça?
Ben, il faut que la personne qui subit des violences et qui reproduit, il faut qu'elle aille en thérapie et qu'elle retraite.
C'est une addiction.
Oui, complètement.
D'accord.
Alors, je te dirais, c'est comme les conduites à risque. Hein. Vous savez, sauter en parachute puis l'ouvrir au dernier moment, faire du ski où on saute, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Ça va être des conduites dissociantes. C'est-à-dire que le cerveau, comme il est en survie, il a très peur et hop, il disjoncte.
À ces mots, justement, progressons dans les clichés. La violence est surtout la pratique d'une certaine population. Vous répondez quoi?
Je ne sais pas, il y a certaines personnes qui aimeraient le croire, hein, mais malheureusement, c'est partout. Non, là. La violence,
mais
je dirais
toutes les strates de la population.
Oui, si on prend l'inverse, c'est comme l'amour, hein. C'est pas que dans une certaine catégorie de population. Et heureusement que la violence n'est pas non plus une fatalité. Hein. Souvent, moi, j'ai des patients qui me disent, bah oui, mon père était méchant, violent, mais c'est normal, il a jamais été aimé et son père était violent aussi. Alors je dis, ah bon, donc vous êtes violent avec vos enfants? Ils me disent, ah non, je ne veux pas leur faire reproduire ce que j'ai vécu.
La résilience, c'est possible.
Voilà, donc ce n'est pas parce qu'on l'a vécu qu'on le reproduit, ça, c'est pas vrai. On peut dire stop et on peut décider d'agir dans l'amour plutôt que dans la violence.
Et puis, on entend aussi beaucoup dire que la police, la gendarmerie, ne fait pas toujours un accueil aux victimes à la hauteur de leur situation. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui de la formation de ces professionnels, justement, sur le sujet?
Alors, à l'heure des charges, je dirais qu'effectivement, ils ne sont pas suffisamment formés. Hein.
Oui.
On va dire que la priorité des budgets, ce n'est pas là-dessus. Aujourd'hui, pour reprendre la police, gendarmerie ou même justice, c'est les attentats ou c'est l'insécurité qui est, on va dire, tendance. Hein. Ce n'est pas vraiment les personnes qui sont abusées sexuellement ou les femmes qui sont battues. Alors, c'est terrible ce que je dis, mais bon, il y a un peu certaines priorités en fonction de certaines périodes qu'on vit. Donc oui, et ça, Muriel Salmona le dénonce bien aussi, elle agit vraiment dans ce sens, c'est-à-dire que les professionnels, même nous, hein, moi je parle de moi, j'ai fait la fac de psychologie, à aucun moment on ne m'a parlé de qu'est-ce qui se passe pendant un viol, ou qu'est-ce que c'est que l'inceste, ou comment ça se répare, à aucun moment de mes 5 années d'études de psychologie. Ça, je l'ai appris après, grâce à mes patients, et parce que du coup, ils m'ont donné envie de me renseigner sur le sujet et de faire d'autres formations complémentaires. Les professionnels de santé, les médecins, les psychiatres, les psychologues, les éduxpé, personne n'est suffisamment formé à la problématique. C'est vraiment un enjeu majeur de société.
Encore un gros chantier de ce côté-là. Vous parlez beaucoup de Muriel Salmona. Je vais évidemment déposer sur notre page Facebook le lien vers son blog, qui est très bien fait, et puis vers le vôtre aussi, qui est pas mal non plus.
Merci.
On se retrouve tout de suite. Je vous écoute, Éléonore, attentivement depuis tout à l'heure. Et je me dis que les violences ont imprégné depuis tellement longtemps les rapports humains qu'elles en ont quand même modifié les normes et les représentations que l'on s'en fait. On le voit avec l'affaire Weinstein là, récemment, et la déferlante du hashtag balance ton porc. Cette violence faite aux femmes, elle était une pratique courante, presque banalisée. Comment changer tout ça, et au-delà des dénonciations d'ailleurs qui ont lieu actuellement?
Comment changer tout ça? Je pense que c'est en train de changer parce qu'on s'autorise plus la parole, les femmes s'autorisent plus à dénoncer, à dire. C'est-à-dire qu'avant, on n'était tellement pas entendu, ou comme vous disiez, c'était tellement banalisé, ou c'est pas grave, c'est de l'humour, ou oh, une personne qui a été violée, écoute, c'est vieux, tourne la page, oublie. Il y avait aussi une méconnaissance des phénomènes dissociatifs dont j'ai parlé. Donc moi, j'ai quand même beaucoup espoir que ces choses-là changent et qu'on s'autorise à dire parce qu'on est beaucoup plus entendu aussi. Donc, comment faire que ça change? Eh bien, effectivement, je pense qu'il faut remettre aussi plus de bienveillance et d'altruisme dans notre société. On est vraiment en perte de valeur, il me semble. Plus de bienveillance, d'écouter l'autre, d'être dans l'amour de l'autre comme on est dans l'amour de soi-même, de s'autoriser à entendre, accueillir, être dans la compassion. Et voilà, les choses vont changer. Ensuite, il faut mettre plus de budget. Je veux dire, si on parle plus concrètement en termes de société, sur la formation des professionnels, que ce soit les professionnels évidemment du soin, mais aussi les professionnels de la justice. Tous les professionnels en lien avec cette problématique, il faut vraiment qu'ils soient formés sur qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là. Et on est vraiment sur un phénomène chimique et qu'il faut réparer avec des outils efficaces.
Toujours cette idée de la bienveillance, de la place de l'autre. On en parlait il y a 15 jours avec l'émission sur le harcèlement scolaire. Il semblerait que, en effet, l'empathie puisse aider beaucoup.
Oui, énormément. En fait, les bouddhistes, alors moi, parmi les outils TCC, alors de thérapie cognitivo-comportementale que je pratique aussi, on a la méditation de pleine conscience. Donc du coup, je me suis ouverte aussi au bouddhisme, et eux, ils disent qu'en gros, il y a 2 choses pour être heureux, c'est la compassion et l'altruisme. Et si on pratique ces 2 choses-là, on est heureux. Alors nous, dans nos sociétés, Dalai Lama, pour encourager les Européens à pratiquer, il disait, écoutez, si vous voulez vous faire du bien, pour que vous soyez bien, il faut que vous pratiquiez ça. Alors évidemment que eux, ils sont pas dans un but égocentrique, hein, mais c'est vrai que si on pratique l'altruisme et la compassion, finalement, on va développer du bonheur intérieur.
La représentation de la femme dans les milieux de la com et des médias aussi est assez responsable de l'installation de cette banalisation de la maltraitance. Je pense à certaines publicités, notamment certaines affiches qui nous ont quand même pas mal choquées, et là même tout récemment.
Alors moi, par rapport à cette question, ce qui me vient, c'est l'œuf ou la poule. Alors, est-ce que finalement c'est les médias qui sont responsables de ça, ou est-ce que c'est parce qu'on a des carcans psychologiques machiste ou je ne sais quoi, ou la place de la femme, c'est un peu la victime, ou c'est voilà, ça n'est pas l'égal de l'homme, que du coup on se permet d'avoir des publicités comme ça. Voilà, ça ce serait intéressant de voir l'œuf ou la poule, mais en tout cas ce serait bien qu'effectivement ça change.
Alors il y a évidemment la façon dont on élève une petite fille, hein, en la rendant très, très ouverte à toutes ces questions et sensible à toutes ces questions, mais il y a la façon aussi dont on élève les petits garçons. Alors une maman qui a un petit garçon, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme conseil justement pour un monde meilleur?
Qu'il respecte la femme autant qu'il se respecte lui, et que l'homme et la femme, c'est juste une différence de sexe, hein. On dit on vient pas de la même planète, mais c'est pas parce qu'on vient pas de la même planète qu'on ne doit pas s'aimer de façon équitable et donner la même place à l'autre que soi-même.
Ce matin, on parle beaucoup de maltraitance, de violence faite aux femmes, le refus d'intégrer l'écriture inclusive dans l'apprentissage scolaire. Est-ce que ça, c'est une forme de maltraitance du féminin par la société? On se pose la question. Le Premier ministre, lui, s'est largement positionné. Il a dit non, il n'en est pas question. Est-ce que pour autant, c'est une maltraitance?
Là, je vous avoue que je connais mal le sujet. Donc, je ne sais pas trop vraiment quoi vous dire.
En gros, où se situe la limite, la frontière entre le respect et l'atteinte portée aux femmes? Elle est où, cette limite? Qu'est-ce qui doit être un indicateur de souffrance? On en parlait en début d'émission.
Oui, tout à fait. L'indicateur de souffrance, ça va être vraiment ce qui va être changement d'humeur, somatisation, les arrêts maladie, les cauchemars, et puis d'autres symptômes qui peuvent apparaître, de dépression, d'anxiété sociale, d'évitement. Il faut vraiment se poser la question sur tous ces indicateurs. Quand une personne change, ou que ce soit voilà, une petite fille, hein, tout d'un coup, elle n'est plus pareille, elle n'a plus la même joie de vivre, ou il y a des personnes, je ne sais pas, le grand-père ne peut plus lui faire la bise. Tout ça, ça doit attirer notre attention, que ce soit voilà, sur des collègues, que ce soit sur son enfant. Donc la limite entre le respect et l'atteinte portée aux femmes, c'est vraiment dans le ressenti intérieur. De toute façon, on le sent à l'intérieur de soi si on est respecté. Ça peut être des blagues vaseuses parce que dans certains milieux d'hommes, que moi je connais bien parce que j'aime bien les sports d'hommes, c'est très bienveillant, c'est respectueux, alors ça va être des petites blagues entre eux. Mais à aucun moment il y a un comportement ou il y a une attitude qui pourrait faire penser qu'il n'y a pas de respect. Donc la différence, elle est vraiment dans votre indicateur intérieur. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ça? Et s'il y a un manque de respect, il faut le dire et il faut mettre des limites.
Les victimes, oui, mais il y a celles et ceux qui pourraient.
Pas bien quand je te vois comme ça, ou tu sais, ça me fait du mal de devoir pleurer. Voilà.
Et mon ami se livre, alors, le conseil et l'accompagnement, comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Les premières démarches, c'est quoi?
Alors, déjà, si c'est des enfants, hein, vous avez des numéros de téléphone, Enfance en danger, 119, je crois. Enfin, n'hésitez pas vraiment à signaler, même si ça n'est qu'un doute.
Parce que tout le monde peut signaler.
Tout le monde peut signaler, et à la rigueur, il vaut mieux peut-être trop signaler, oui. Mais les professionnels, de toute façon, vont explorer, vont vous poser des questions pour mieux comprendre si ça vaut le coup de mettre en place une enquête ou si c'est juste des peurs. Mais il faut signaler, il faut dire, voilà. Alors c'est compliqué parce que si par exemple vous êtes victime de quelque chose en live, je sais pas, par exemple dans le métro, vous voyez une femme qui commence à se faire violenter, je reviens toujours sur mes phénomènes dissociatifs, hein. Si vous-même vous avez subi de la violence, votre cerveau il risque de disjoncter quand vous voyez ça, parce que la violence ce n'est pas que vécue personnellement, c'est aussi, on parle de violence vicariante, c'est aussi quand vous observez les enfants qui ont eu les parents qui se sont battus devant eux avec beaucoup de violence, ils sont traumatisés, ils peuvent avoir un PTSD parce qu'ils ont vu les gens qu'ils aiment se faire du mal. Moi, j'ai vraiment réparé des traumas comme ça. Par exemple, un monsieur qui avait son papa alcoolique et qui tapait sa femme et elle finissait dans le coma. Et le monsieur qui est maintenant adulte était complètement traumatisé. Il avait cette scène qui était figée dans son cerveau. Il la voyait comme si c'était hier. Donc, des personnes qui ont vécu des traumas comme ça, s'ils revoient des scènes un peu similaires, ils vont être à nouveau sidérés, c'est-à-dire qu'ils ne vont plus avoir accès à leurs mouvements, à leurs paroles. C'est ça qui est compliqué. Enfin, je voulais juste dire, ne jetons pas la pierre à tous les témoins qui ne réagissent pas. Évidemment, si on le peut le plus possible, il faut signaler, même si c'est dans l'après-coup, il faut dire, il faut faire. Mais vous n'en voulez pas de trop si vous êtes complètement coincé dans la situation.
Alors les coups qui ne se voient pas, les coups à l'âme, les coups psychologiques, comment est-ce que quand on est dans une démarche auprès de la police, auprès de la justice, on les fait valoir?
Alors là, voilà, c'est compliqué au niveau de la justice. Ensuite, ça va être eux, bon, moi je ne suis pas policière, hein, mais je sais qu'ils ont besoin d'instruire une enquête, donc ils ont besoin de preuves, donc ça va être des mails, des textos, je repense encore à un monsieur et sa femme qui lui fait des menaces de mort régulièrement, qui a tenté de l'écraser. Voilà, il faut aller déposer plainte systématiquement quand il y a des événements comme ça, ou quand vous avez des textos, des mails. Et ensuite, c'est votre avocat qui pourra, avec cette pièce justificative, monter un dossier. Mais après, ça se joue au niveau de la justice, et ça n'est plus trop mon domaine.
On parle des violences faites aux femmes. Ce matin, sur Radio Albatros,